20h04 sur France Bleu, on retrouve Ségolène Aluni pour On se dit tout.
Effectivement, Fanette, est-ce que ça vous arrive de rêver de l'actualité?
Oui, ça
vous
m'arrive.
Vous qui êtes journaliste, est-ce que vous arrivez à prévoir l'actualité dans vos rêves?
Ah non, par contre, ça j'arrive pas à le faire,
ça
pas
jamais
encore,
arrivé.
J'aimerais bien.
Bon, eh bien sachez que pas mal de monde fait des rêves prémonitoires et on va parler justement du pouvoir des rêves ce soir dans On se dit tout.
On se dit tout sur France Bleu, Ségolène Aluni.
Et oui, bienvenue dans votre émission de confidence. Ce soir, on se dit tout sur nos pensées les plus inconscientes, voire les plus intimes. Ben oui, parce qu'on va parler de vos rêves. Et les rêves qui nous révèlent parfois beaucoup plus de choses qu'on ne pense sur nous-mêmes. C'est l'inconscient qui travaille les pensées refoulées de la journée parfois. Mais les rêves peuvent nous servir de guide aussi. Alors, quel est votre rapport aux rêves? Est-ce que vous les notez? Est-ce que vous les analysez? Peut-être que vous avez même réussi à résoudre des situations dans votre vie grâce à vos rêves. Vous prenez la parole ce soir sur France Bleu, On se dit tout sur les rêves avec notre grand témoin qui est spécialiste du langage des rêves. Mais attention, j'en profite pour préciser qu'on ne fait pas d'interprétation des rêves ce soir, que ce soit clair. On est là pour échanger sur vos expériences passées, sur vos rêves étranges, sur ceux qui ont peut-être influencé votre vie. Et donc, on se dit tout ce soir avec notre témoin Tristan Moir. Bonsoir Tristan.
Bonsoir Ségolène, bonsoir à tous.
Et merci d'être avec nous ce soir. Alors, première question, peut-être un peu bête, mais est-ce que tout le monde rêve dans son sommeil, Tristan?
Bien sûr, le rêve est inhérent à la fonction neurologique, et donc tous les êtres vivants rêvent. Donc plus on va vers le stade évolué, c'est-à-dire vers l'humain, plus on va avoir affaire à beaucoup de rêves. Mmh. C'est le propre des mammifères, mais aussi de certains vertébrés, de certains reptiles. Donc pour les humains, le rêve est une fonction inhérente du fonctionnement normal. Le rêve se produit à peu près pendant 1h30 pendant la nuit.
Donc, ah, c'est tout? Finalement, c'est pas...
Ah bah, ça fait déjà quand même pas mal. Alors là, je parle du sommeil paradoxal, puisque donc, brièvement, le sommeil se divise en 4 phases. Donc nous avons 4 cycles pendant la nuit, et dans ces cycles, il y a des périodes. La période, c'est l'endormissement, c'est-à-dire qu'on commence à avoir des hallucinations. Après, on sombre en sommeil profond, donc là, il y a très peu de rêves. Il y en a effectivement, mais surtout ceux qui nous intéressent, c'est ceux qui se déroulent pendant le sommeil paradoxal, donc c'est-à-dire en fin de phase.
Et ceux qu'on est susceptible du coup d'analyser. Mais du coup, est-ce qu'il y a forcément une explication à creuser à chaque fois? Est-ce que chaque rêve a une signification?
Alors pour moi, à partir du moment où on se souvient d'un rêve, s'il reste en mémoire, c'est qu'effectivement, il est considéré comme un rêve-message.
D'accord.
Notre inconscient s'adresse à notre conscient et va donc être porteur d'une information qu'on peut décrypter. Alors effectivement, ces informations sont souvent codées.
Et il va falloir réussir à les décoder,
voilà,
c'est ça.
Puisque le langage du rêve est un langage très particulier, qui va souvent parler en métaphore, avec l'usage de symboles, et surtout, il va parler d'une façon extrêmement simple, et une simplicité dont nous avons perdu l'usage.
Et du coup, est-ce que nos rêves peuvent nous aider à agir dans la vie, peuvent avoir une influence directe dans la réalité?
Alors, dans la réalité, évidemment, le rêve, quand il est interprété et qu'il est interprété de façon juste, quand on tient compte de son message, il nous fait évoluer en permanence. Puisque selon Jung, le rêve est l'expression de notre désir profond.
Ah oui.
Donc le rêve nous reconnecte avec nous-mêmes, de la même manière que Michel Jouvet peut le dire, spécialiste du rêve, celui qui a nommé le sommeil paradoxal, s'est aperçu qu'effectivement le rêve nous reconnectait avec notre identité fondamentale et qu'il permet de ne pas nous disperser face au conditionnement et à l'oubli.
Ah ouais, vaste programme. Donc on plonge dans l'inconscient ce soir pour se reconnecter avec la réalité. Racontez-nous vos rêves les plus fous ce soir, les plus insolites, ceux qui ont eu des répercussions dans votre vie ou qui vous ont donné de l'inspiration. Vous nous appelez tout de suite, on a hâte d'entendre ça. Nous sommes à votre écoute ce soir avec Tristan Moir, spécialiste du langage des rêves, notre grand témoin. C'est parti à vos téléphones.
Ce soir, on se dit tout sur France Bleu. 0810 055 056. Le soir, sur France Bleu, on se dit tout, Ségolène Aluni.
Et on se dit tout autour des rêves ce soir. Nous rêvons en moyenne 3 à 5 fois par nuit. La plupart du temps, on ne se souvient pas de ses rêves. Il nous en reste parfois des bribes au réveil. Mais d'autres fois, certains de ces rêves nous hantent, nous collent à la peau le reste de la journée. Alors signifie-t-il quelque chose? Est-ce que vous avez déjà tenté de les analyser? Ça a donné quoi? Racontez-nous vos rêves et ce qu'ils vous ont apporté. 0810 055 056. On se dit tout sur les rêves avec Tristan Moir, notre grand témoin ce soir. Qui vous écoute, et tout de suite direction les Pyrénées-Atlantiques. Nous sommes avec Nelly. Bonsoir Nelly.
Oui, bonsoir tout le monde.
Alors Nelly, rapprochez-vous bien de votre téléphone. Je ne sais pas si vous avez un haut-parleur, on vous entend peu mal. Donc voilà, parlez bien près du combiné.
D'accord.
Nelly, vous avez une histoire à nous raconter. Vous avez démystifié vos cauchemars.
Oui, alors je vous explique.
Oui.
Pendant un temps, j'ai voulu vérifier, savoir si je pouvais éventuellement faire des rêves prémonitoires. Donc, j'ai pris un carnet à crayon que j'ai mis sur ma table de chevet et on va dire pendant 2 mois, toutes les nuits, dès que je me réveillais et que je me rappelais d'un rêve, je notais. Et en fait, toutes les nuits, je faisais 3-4 rêves facilement. Et puis, un jour, j'ai fait un cauchemar. Mmh. Et en fait, je me suis rendu compte que mon cauchemar n'était absolument pas différent de mes rêves au niveau du contenu, c'est-à-dire qu'il reprenait exactement des éléments que j'avais pu vivre dans la journée ou dans la semaine précédente. Mais pour une raison X ou Y par rapport au rêve, il avait une charge émotionnelle en plus. Et ce qui fait que quand on cauchemarde, eh ben, on se réveille en sueur, enfin on a des émotions.
Et vous pouvez nous raconter ce cauchemar, Nelly ?
Je n'ai plus aucun souvenir de ce cauchemar, mais ce qui était fort intéressant, c'est de me rendre compte que la charge émotionnelle n'avait aucune signification en soi. Enfin, comment dire, ça m'a complètement apaisée par rapport au cauchemar. Je n'en ai quasiment plus jamais fait depuis. Et les rares fois où j'en fais, tout de suite dans ma tête, il y a un truc qui me dit « Ah mais c'est rien, c'est un cauchemar, c'est pas grave ».
Parce que c'était vraiment très violent, du coup, les réactions que vous aviez, enfin les sensations que vous aviez suite à ce cauchemar.
Les sensations de cauchemar, c'est toujours, on a peur, c'est des vraies sensations qu'on a en dormant, et ça peut amener jusqu'à se réveiller et des fois à essayer de hurler. Et dans la réalité, les cordes vocales ne sont pas en route, mais dans le rêve, on a envie de hurler et on se réveille en essayant de hurler.
Et donc c'est vraiment la méthode de l'écriture de vos rêves qui vous a aidé à démystifier les sensations de cauchemar.
C'est un cauchemar, ce n'est qu'un rêve avec une petite charge émotionnelle en plus que pour une raison X et Y on vit mal, mais qui n'a aucune raison de le vivre mal. Et ça m'a complètement apaisée par rapport au cauchemar.
Tristan Moir, ça vous parle du coup cette démystification du cauchemar grâce à l'annotation de ses rêves ?
Alors tout à fait, le fait de nommer la charge émotionnelle est très importante puisqu'effectivement le cauchemar est une histoire qui va se dérouler dans notre inconscient qui va arriver avec une telle charge émotionnelle qu'on n'est pas capable de la gérer et bien souvent donc on est obligé de se réveiller. Quand on arrive à comprendre d'où vient cette charge émotionnelle, à ce moment-là on va démystifier et démythifier aussi l'intensité du rêve, puisque les images qui vont se présenter pendant le cauchemar sont des images qui sont revécues avec l'émotionnel de l'enfant, la plupart du temps, donc qui ne sont pas gérables. Et l'adulte qui va s'intéresser à ses rêves, qui va les noter, qui va essayer de comprendre quelle est la charge émotionnelle qui est associée aux images insoutenables, va souvent arriver donc à les démonter, à décharger le contenu, et à peut-être même à comprendre pourquoi il le fait. Puisqu'il y a le contenu latent, c'est-à-dire les images qui arrivent, et le contenu manifeste, c'est-à-dire ce qui est dit au travers de ces images.
Donc on peut contrôler ses rêves, là c'est ce que...
Alors c'est pas tant les contrôler, c'est plutôt les comprendre.
Ouais.
Et relativiser aussi, comme peut le faire Nelly, d'ailleurs bonsoir Nelly, relativiser la charge émotionnelle qui peut en découler, se raisonner en tant qu'adulte et non plus en tant que petite fille ou petit garçon.
Alors du coup, Nelly, est-ce que vous vous êtes sentie grandie depuis que vous avez réussi à désacraliser ces cauchemars ? Est-ce que ça a changé quelque chose pour vous dans votre vie ?
Alors en tout cas, grandie, je ne sais pas, parce que je ne l'avais pas vu de cette façon-là, mais en tout cas, apaisée, ça c'est sûr.
Oui, c'est vrai, parce que ça vous angoissait, après ça vous suivait ces cauchemars ?
Non, pas tant que ça, mais je veux dire, quand je dis apaisée, je dirais, quand je fais des cauchemars, je suis complètement apaisée maintenant.
Ah oui, d'accord. Donc vous continuez de faire des cauchemars, ça n'a pas arrêté le processus.
Non, j'en fais très très peu par rapport à avant. Et quand j'en fais, je suis complètement sereine avec ça.
Eh bien, merci beaucoup pour votre témoignage depuis le Béarn, Nelly. On vous souhaite une belle soirée.
Merci à vous aussi.
Merci Nelly, bonsoir.
Et à très bientôt sur France Bleu. C'est vrai, ça, c'est un conseil qu'on donne souvent de noter les rêves une fois qu'on les a encore dans la tête, parce que ça s'efface très vite.
Et voilà, c'est très évanescent, un rêve, ça se délite. Et donc quand on le note, on a plus de chances de le mémoriser et peut-être même de comprendre.
Mm-hmm.
Parce qu'on va déjà aussi faire quelque chose de très important, on va mettre en forme quelque chose qui vient du plus profond de nous. Donc on donne de la valeur à ce que nous produisons. Et selon Jung aussi, le rêve est l'expression profonde de notre désir, c'est pas seulement un exutoire comme peut le voir Freud, puisque pour Freud, le rêve est un exutoire de nos désirs, de nos pulsions refoulées. Il y a aussi une charge qui est vraiment une dimension intérieure, on se reconnecte avec notre source, et le fait de noter un rêve va donner de la valeur à ce que l'on produit, et peut-être même va nous aider à comprendre ce qui se passe.
Voilà, malgré nous, parce que c'est l'inconscient qui parle bien souvent, et le travail peut se faire entre guillemets tout seul.
Et là, Nelly parlait de vouloir crier pendant le rêve. Donc ça, ce sont effectivement des moments, des charges qui arrivent pendant le rêve. On veut courir, on veut crier, on veut faire des choses, et quelquefois on est en état d'impuissance. Donc si on fait ce type de cauchemar, ou on est en état d'impuissance, il faut comprendre pourquoi nous bloquons dans notre évolution normale, quand nous avançons, pourquoi nous bloquons à un moment donné, pourquoi on ne peut pas se faire entendre ou pourquoi on ne peut pas avancer. Parce que là, ce sont vraiment des éléments symboliques. Ne pas pouvoir crier, c'est ne pas pouvoir se faire entendre. Et ne pas pouvoir courir, c'est ne pas pouvoir avancer.
Ouais, c'est aussi simple. Et ça paraît logique, finalement, c'est la symbolique.
C'est pour ça que je parlais de simplicité. Dans le langage du rêve, c'est vraiment, il faut avoir recourir à une notion de simplicité.
Tristan Moire est notre grand témoin ce soir, spécialiste du langage des rêves. Vous aussi, confiez-nous vos rêves ce soir. Est-ce que vous avez travaillé dessus? Vous avez fait des rêves prémonitoires, comme Valérie, que nous allons recevoir dans un instant. Valérie qui nous appelle de Savoie. Rêves prémonitoires, rêves créatifs, des rêves qui vous ont influencé dans votre vie, qui vous ont aidé à prendre des décisions ou à comprendre des choses sur vous. Appelez-nous ce soir, on en discute tous ensemble. Vous vous confiez au 0810 055 056. On vous attend.
On se dit tout sur France Bleu, Ségolène Aluny. On est bien ensemble sur France Bleu. Le soir, sur France Bleu, on se dit tout, Ségolène Aluny.
Et oui, on se dit tout sur les rêves, toujours ce même rêve qui revient, un cauchemar peut-être, dont vous avez eu du mal à sortir au réveil, cauchemar qui vous a poursuivi toute la journée. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'analyser vos rêves? Et est-ce qu'ils disent des choses sur vous? Avez-vous consulté un spécialiste pour les interpréter? Racontez-nous, qu'est-ce que ça a donné? Est-ce que ça vous a aidé? On écoute vos témoignages ce soir, on se dit tout sur les rêves, mais attention, on ne les interprète pas en direct, c'est pas l'objectif de cette émission. Donc si vous avez réussi à analyser vos rêves, à déceler leurs mystères, vous nous racontez au 0810 055 056 avec à votre écoute un spécialiste du langage du rêve, onirologue, c'est comme ça qu'on dit Tristan Moire.
Oui, aussi. Tout à fait, de oniros le rêve et
onirique,
voilà, le langage, et donc spécialiste du langage du rêve.
Spécialiste du langage du rêve et nous sommes en Savoie avec Valérie. Bonsoir Valérie.
Bonsoir Valérie.
Bonsoir.
Valérie.
Bonsoir.
Vous avez fait des rêves prémonitoires, donc ça existe le rêve prémonitoire, selon vous, oui?
Oui, ça existe vraiment.
Racontez-nous.
Moi j'ai rêvé une fois que ma mère perdait ses dents, et donc je l'ai appelée, j'ai dit « Maman, je pense que ma grand-mère va mourir, ta mère va mourir parce que j'ai rêvé que tu perdais tes dents », et 4 jours après, elle était vraiment décédée.
Alors vous aviez rêvé que votre mère à vous perdait ses dents?
Perdait ses dents, ouais, ouais.
Et en fait, alors là, le sous-entendu, c'est que la symbolique de perdre ses dents, c'est de perdre quelqu'un.
C'est la mort de perdre de quelqu'un, oui.
Ah oui, bah je ne savais pas. Tristan, vous confirmez ou c'est pas forcément...
Alors, j'ai toujours dit ça, moi.
C'est la clé des songes. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est la tradition populaire.
D'accord.
Quand on perd des dents, on associe ça souvent à la perte d'un proche. Mais des proches, il y en a beaucoup. Et donc, on peut souvent faire des associations qui, de toute façon, se seraient produites sans le rêve. Par contre... perdre ses dents, symboliquement, ça veut dire être en perte de vitalité.
Ah bon ?
Oui, et donc là, effectivement, il y a quand même un lien avec un processus mortifère, mais c'est d'abord surtout pour soi-même à qui ça s'adresse ce rêve. C'est-à-dire qu'il y a une perte de vitalité. Par contre, il est possible que vous ayez pu sentir des signes de fatigue chez votre grand-mère. L'inconscient, c'est un énorme cerveau. C'est une énorme calculatrice qui fait des statistiques par rapport aux informations qu'elle reçoit de l'extérieur. Donc l'inconscient peut effectivement pronostiquer des éléments, des événements qui vont se produire. Mais d'une façon générale, le rêve de perdre de dents vous concerne d'abord vous.
Ah d'accord. Et donc, mais j'ai pas rêvé que de ça dans ma vie. J'ai rêvé d'un autre rêve qui a été prémonitoire parce qu'il s'est passé il y a pas longtemps, mais je l'ai rêvé un an avant. C'était que en fait je crie au secours, j'avais de l'aide, j'avais de l'attention autour de moi, je crie au secours, après j'étais dans un ascenseur et je volais dans les airs et j'étais dans le froid total, je criais toujours au secours, puis d'un seul coup il y a 2 nuages qui se sont séparés, puis c'était le paradis. Et quand je suis arrivée à déménager de où je suis là, j'ai déménagé et j'étais en, un peu, je me sentais en danger.
dans mon immeuble et j'ai été dans un autre immeuble et il y avait un ascenseur exactement comme dans mon rêve. Et dans cet ascenseur-là, le premier jour que je suis arrivée, il y avait de l'orage. Et le troisième jour que j'étais là, bah, c'était tout le beau temps, c'était le paradis. En fait, j'ai changé de vie et tout va mieux dans ma vie.
D'accord, donc vous avez associé ça.
Et est-ce, je pense, oui.
Ouais. Et est-ce que ça vous a conditionné, en fait, ce rêve? Est-ce que vous vous êtes dit, au moment où vous l'avez fait, vous vous en souvenez encore, donc j'imagine que c'était frais dans votre tête, vous vous êtes dit, il va peut-être m'arriver ça? Est-ce que ça vous a...
Non oui, je me suis dit, je vais être pas bien pendant un moment, je pense, et après, ça va être le soleil, donc je me suis dit ça, quand même.
D'accord.
Je me suis dit ça, puisque c'est arrivé, donc c'était vraiment un rêve prémonitoire. De toute façon, j'en ai fait souvent des rêves prémonitoires. Des fois, je rêve de quelque chose, et puis dans la journée, je le vis, je le vois, je vois ce qui s'interprète dans mon rêve, ce qui interprète dans mon rêve et passe dans la réalité.
Donc vous êtes déterminée, Valérie, pour vous, vous faites des rêves prémonitoires. Est-ce que, justement, vous essayez de les orienter, de contrôler ces rêves pour que, bah, vu que ça se réalise la plupart du temps...
Oui, des fois, je rêve de quelque chose et puis j'allume la télé et puis ça, c'est exactement ce que j'ai rêvé. Je le vois sur l'image à la télé et puis je dis, tiens, bah, il y a une heure que je suis réveillée, je l'avais rêvé, ça. Des trucs comme ça.
Ouais, c'est fréquent, du coup, ce genre
c'est
de...
C'est fréquent, ouais, même dans la journée, hein, y a des choses qui arrivent. Le jour, j'ai rêvé d'un bouchon de champagne et puis dans la journée, bah, y a quelqu'un qui a ouvert un bouchon de champagne et bah, ça pétait comme dans mon rêve. C'était alors que je savais pas que j'allais boire du champagne et en fait dans mon rêve je l'avais rêvé. Alors que voilà, je savais pas que j'allais le faire le lendemain de mon rêve, quoi. Et le lendemain de mon rêve, c'est arrivé.
Merci beaucoup, Valérie, de ce témoignage depuis la Savoie. Ce sont des choses qui arrivent, ce genre de profil, vous les retrouvez de manière fréquente. Est-ce qu'on peut rêver de quelque chose? Bon là, le bouchon de champagne, ça peut être le hasard, mais est-ce que, selon vous, Tristan Moir, on peut anticiper la réalité ou c'est... Alors, juste des signaux qui nous sont donnés inconsciemment?
Je vais essayer de procéder par ordre, parce que dans l'intervention de Valérie, il y avait beaucoup, beaucoup d'éléments et beaucoup de questions. Bon, alors, la grande question, c'est effectivement, est-ce que les rêves prémonitoires existent? Oui.
Oui, selon vous,
oui.
C'est catégorique.
J'ai pu constater, par ma pratique en cabinet, depuis le temps que j'exerce, qu'effectivement, parfois, il y a des rêves qui sont prémonitoires, j'en ai même fait moi-même. Donc, oui, mais ça n'a pas grand intérêt, puisque là, on vient de le voir dans l'exemple cité, ça ne va pas bouleverser sa vie.
Mais il y a quelque chose de magique, il y a quelque chose de l'ordre du divin l'idée du rêve prémonitoire.
Oui, mais justement, c'est ça qui émoustille, c'est le côté magique. Puisqu'aujourd'hui, il y a peu de territoires dans lesquels on puisse encore aller rêver. Et le rêve, c'est vraiment le territoire dans lequel on peut rêver. On peut être enflammé par l'imaginaire, la magie, la superstition. Mais là, dans les cas précités, bon, c'est vrai que c'est pas très important ce qui est mis en scène. Et l'esprit aime bien faire des associations. Parce que justement, nous aimons le magique, nous aimons le merveilleux, et puis ça donne du sens, on se sent... c'est joyeux. Puisque là, dans le cas de Valérie, c'est joyeux. Mais sinon, dans l'ensemble, les rêves ne servent... Même quand ce sont réellement des rêves prémonitoires, on n'a pas les clés pour les interpréter au moment où l'événement va se produire. On ne sait pas quand il va se produire, et donc ça n'a pas grand intérêt. À ce niveau, l'inconscient est une énorme machine, comme je disais tout à l'heure, et... Jung considère que pendant le temps du rêve, le temps est élastique. C'est-à-dire que pendant le moment du rêve, on peut avoir accès à des informations prolepses, c'est-à-dire des informations qui vont se dérouler plus tard. Apparemment, c'est le cas. Mais ce n'est pas tant pour...
Mais ça ne s'explique pas rationnellement, du coup ?
Ça ne s'explique pas forcément rationnellement. On peut faire, effectivement, voir qu'il y a des coïncidences très étonnantes et faire des liens. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est pourquoi on se sert de cette information et pourquoi... Au moment où on fait le rêve, ça peut être signifiant pour nous au moment présent. Et donc là, je reviendrai à une interprétation beaucoup plus psychanalytique, c'est-à-dire qu'on va décortiquer le rêve pour savoir de quoi il parle. Dans le cas de Valérie, ça parlait beaucoup plus de sexualité que de beau temps.
D'accord.
Oui.
Bon. Alors, on va pas interpréter du coup, mais.
Mais l'ascenseur, c'est de la libido.
Ah bon ?
Oui.
D'accord.
Les nuages, ça peut être quelque chose qui est lors du conflit. Les liens se dissipent et le beau temps, réconciliation sur l'oreiller.
Ah oui, donc il y a matière à méditer. Vous parliez de psychanalyse, justement, on va l'évoquer avec notre témoignage depuis Toulouse. On part de la Savoie jusqu'à Toulouse.
Juste, oui. Est-ce que je peux juste, parce qu'il y avait tellement de choses, ce que surtout a mis en avant Valérie, c'était les rêves de synchronicité.
Oui.
C'est-à-dire que ce ne sont pas des rêves qui prédisent quelque chose qui va se dérouler plus tard, ça prédit des choses qui sont déjà, quand elle allume la télé, qu'elle voit l'événement... Pendant le temps du sommeil, on a accès aussi à des informations parfois d'ordre télépathique.
Ah,
et
oui.
Donc, il y a beaucoup, beaucoup de rêves de synchronicité. Et donc, l'inconscient peut avoir accès à toutes les informations qui se déroulent au moment où on les vit. Et le cas les plus fréquents, ce sont les décès et les naissances. On peut avoir accès à des informations de cet ordre dans le rêve, et puis on se réveille et dit « Tiens, j'ai rêvé que tu étais enceinte. » Effectivement, oui, je suis enceinte.
Oui, le cerveau est capable
de la synchronicité.
Incroyable, de la synchronicité, oui. Très bien. Alors, comme prévu, direction Toulouse, nous sommes avec Jani ce soir. Bonsoir Jani.
Oui, bonsoir.
Alors, on parlait de psychanalyse à l'instant. Vous nous avez confié hors antenne que pendant longtemps, vous avez côtoyé des gens malsains et pervers, je vous cite. Et un jour, vous êtes allé voir un psychologue, et là, vous êtes aperçu que...
Un psychiatre, en fait.
Un psychiatre, d'accord. Ouais. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé avec ce psy?
Et en fait, là, je me suis rendu compte qu'il y avait une synchronicité entre mon conscient et mon inconscient. Parce que j'ai pas du tout... alors, bon, justement, je voulais mettre un terme à ces répétitions. Et donc, le psychiatre m'a dit, bah, écoutez, tous vos rêves, vous les notez, et on les interprétera. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu un rêve qui a été déterminant pour la compréhension de ce qui se passait. Et en fait, c'est très simple à comprendre. J'étais sur une chaise ligotée, attachée, et derrière moi, il y avait une dame habillée en blanc, une infirmière qui était avec une aiguille, avec une seringue, et avait une très très longue aiguille, et par derrière, dans le cou, elle enfonçait l'aiguille et elle distillait du poison. Donc, dans un premier temps, j'ai vu une personne à qui ça arrivait, et cette personne est décédée. Et après, ça a été mon tour, je me suis retrouvée sur la chaise. Et en fait, la dame, l'infirmière m'a distillé du poison. Et moi, je me suis débattue par la suite. Je lui ai dit, de toute façon, c'est pas grave, je trouverai un antidote et tout ça. Et j'étais dans la démarche de m'en sortir. Et le monsieur m'a dit, le psychiatre m'a dit, mais écoutez, dans votre famille, est-ce qu'il y a des infirmières? Je lui ai dit, oui, il y a ma mère. Et en fait, c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait toujours eu une rivalité mère-fille. Et elle n'a cessé de me saboter, de me dire que j'étais moche et tout ça, alors que j'avais tout pour... j'étais jolie, intelligente, etc. Elle a saboté mon enfance et mon adolescence. Et j'en suis arrivée à me faire du mal, à me trouver l'aide, à m'en les dire. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que l'origine de tout ça, c'était ma mère. Ah, ça a été totalement amusant parce que mon inconscient avait enfoui plein de choses que j'avais acceptées. Et là, c'est ressorti, c'était vraiment très émouvant. Mmh. Et c'était au moment où je voulais faire un point sur ces répétitions. Je pense que consciemment, je voulais...
Ce que vous appelez répétition, c'est le fait de toujours être entouré de gens qui vous voulaient du mal, entre guillemets.
Oui, je les attire. Mmh. Oui, j'avais tendance à les attirer, oui. Et donc, on a fait un lien avec ça. Et dès lors que j'ai pu faire un point sur ça, et du coup, ça, les répétitions se sont complètement arrêtées.
D'accord. Et vous avez pris soin de vous, vous avez repris confiance en vous suite à ce rêve. Qu'est-ce qui a changé chez vous, Jani?
Consciemment, j'étais déterminée à arrêter ces répétitions. Donc, consciemment, je suis toujours en alerte. Ce qui m'a beaucoup amusée, c'était le conscient qui interpelle l'inconscient. Donc c'est ça qui m'a interpellée.
C'est vrai que c'est
interpellée.
Hyper intéressant ce que nous raconte.
Je n'avais jamais fait ce rêve auparavant.
Oui, donc en fait là, elle a directement, là on peut le dire, Tristan Moir, Jani a orienté directement son rêve. C'est forcé en fait quelque part à le faire pour mieux comprendre sa situation. On peut l'interpréter de cette manière-là.
Bah pour décoder les images, apparemment, ce qu'elle a bien fait avec son psy. Puisque l'image de l'infirmière pouvait être cette personne malsaine qui lui voulait du mal. Et donc là, on est dans un syndrome de marâtre. La mère qui ne supporte pas que sa fille soit plus belle qu'elle et qui va donc procéder à un travail de lavage de cerveau ou d'aliénation parentale. Donc faire passer des idées d'évaluer l'image de la fille. Et donc, naturellement, elle va transformer sa fille en victime. Et naturellement, les pervers, les prédateurs vont être attirés par les victimes.
Vous avez refait ce rêve, Jani, depuis ?
Non, plus du tout, mais je suis constamment... j'attire beaucoup ce type de personnes, que ce soit au travail ou dans ma vie personnelle. Et j'ai beaucoup tendance à vouloir aider ce type de personnes parce que je sais comment elles fonctionnent. Et c'est un système très, très particulier. Et bon, Et ce système de femme perverse qui a peut-être eu dans son histoire des soucis avec sa propre mère, j'en sais rien. C'est vraiment très particulier parce que c'est à la fois gentil, doux, elle passe elle-même pour une sorte de victime, a tendance à vouloir la protéger, donc sa propre mère contre son père qui paraît être le méchant. Et donc il y a un lavage du cerveau qui s'opère, mais en parallèle, elle est très 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 comment destructrice. Hein,
Merci beaucoup en tous les cas pour ce témoignage et cette belle analyse, puisque là, c'est une sorte de thérapie en fait, l'analyse des rêves, tout simplement.
Ah bah c'est thérapeutique.
Là,
c'est
en l'occurrence,
le but. Le but, c'est de nettoyer l'inconscient pour être vraiment connecté avec un désir sain et se remettre, comme vient de le faire Jeannie, dans la réalité et arrêter d'être victime. Parce que là, il y a vraiment un formatage qui se produit. Hein. C'est pavlovien, à force de répéter quelque chose, et les inconscients communiquent entre eux, et donc le prédateur va se diriger tout de suite vers la victime, parce qu'il a besoin d'une victime pour se sentir tout puissant.
Et là, en l'occurrence, pour le cas de Jeannie, merci beaucoup de nous avoir appelés depuis Toulouse. On continue d'écouter vos témoignages ce soir en compagnie de notre témoin Tristan Moir, qui est donc onirologue, autrement dit spécialiste du langage des rêves. 0810 055 056 pour vous confier. Vous écrivez vos rêves au réveil, vous essayez de les déchiffrer, vous en êtes parvenu à en décoder certains. Peut-être que vous avez consulté quelqu'un, un spécialiste des rêves. Eh bien, il y en a un avec nous ce soir, Tristan Moir, qui est à votre écoute et qui est spécialiste du langage du rêve. Venez nous raconter votre expérience. On se dit tout donc sur l'univers du rêve qui peut influencer notre réalité. 0810 055 0 56. Et comme promis, direction le Var, où nous nous rendons ce soir, Tristan, et nous sommes avec Paul. Bonsoir Paul.
Bonsoir Paul.
Oui, bonsoir.
Alors Paul, vous avez fait un rêve bien précis. Racontez-nous, je vais vous laisser nous le raconter.
Alors c'est exact, oui. En fait, j'ai rêvé que je faisais un travail insolite, c'est-à-dire en fait je rangeais des sacs poubelles dans les poubelles qu'on peut trouver dans tous les coins de rue.
C'était donc, votre boulot dans le rêve. Vous rangiez les sacs poubelles, d'accord.
Tout à fait, c'était mon travail. Donc j'étais à l'époque j'étais au chômage. Donc j'étais mon rêve très content d'avoir trouvé un boulot. En plus, je travaillais, j'étais très très content. Et en fait, je me suis reporté à un ouvrage parce que je suis quelqu'un qui fait pas mal de rêves. Mmh. Donc les rêves que je me rappelle. Donc je vais de suite sur ce dictionnaire et je regarde un peu. Donc je me suis référé aux rêves que j'ai fait et je me suis aperçu que j'ai lu qu'en fait j'allais trouver un travail assez rapidement et faire carrière dans ce domaine.
Et c'est ce qui s'est passé ?
Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Donc guère de temps après, en plus peut-être une semaine après, donc j'ai reçu une offre d'emploi. Donc ça m'intéressait. Et j'étais pris et j'ai travaillé. Depuis, j'ai fait carrière dans ce domaine.
Dans quel domaine, du coup ?
Je suis ambulancier.
D'accord.
Donc, j'ai passé mes diplômes et mon employeur m'a financé mes diplômes et j'ai pu accéder à ce métier.
Et une fois que vous aviez vu ce qu'il y avait écrit dans le dictionnaire des rêves et qui vous disait justement que vous alliez trouver un travail, est-ce que ça a changé un petit peu votre comportement ? Vous étiez dans une démarche plus assurée peut-être ?
Ça m'a surpris de lire ça, mais j'étais pas persuadé que ce soit vrai parce que c'était trop beau pour que ce soit vrai en fait.
Alors Tristan Moir, dites-moi si je me trompe, mais ça peut influencer, du moins conditionner en fait quand on lit ça.
Voilà, parce que là c'est euphorisant et donc ça peut prédisposer la personne à être dans meilleures conditions et se sentir plus légère et donc présenter un visage différent. Alors là il pourrait y avoir aussi un hasard. Ce qui est important surtout, c'est le contenu du rêve, c'est-à-dire que le fait de ranger des poubelles, c'est faire le nettoyage en soi-même. Puisque les poubelles, c'est l'endroit où on met les déchets, donc là ils sont rangés dans des sacs, c'est-à-dire que vous aviez déjà certainement bien compartimenté les choses, vous vous déchargez et vous vous sentez d'autant plus légitime et léger pour entreprendre quoi que ce soit.
C'était le cas du coup, Paul ?
Non, certainement. Parce que j'étais dans cette voie-là, quoi. Dans cette profession, je l'exerçais auparavant en tant que bénévole à la Croix-Rouge, donc je faisais du secourisme à la Croix-Rouge. Donc, j'étais attiré par ce métier. Donc, voilà, en fait, je ne sais pas comment l'expliquer, ça s'est réalisé.
Et tout va bien aujourd'hui, du coup, dans votre boulot?
Tout va très bien. Tout va très bien. Je suis très, très heureux dans mon travail, tout à fait. Alors, je ne sais pas si je peux parler de ce livre ou pas, parce que moi, je suis quelqu'un qui fait quand même pas mal de rêves. Et les rêves, ce n'est pas que prémonitoire. Ça peut être un trait de caractère, ça peut être aussi une situation présente. Ce n'est pas que, faut pas voir dans les rêves que de la prémonition.
Oui, ça c'est clair, et je pense que Tristan Moir confirmera vos propos.
Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'aspect prémonitoire n'est pas tellement intéressant, le prédicatif, non, mais par contre, ce qu'il signifie au moment présent, oui.
Ça toujours. Signifie, et ouais, ça explique
et donc là,
des choses sur nous.
Moi,
ouais.
Je resterai d'un point de vue psychanalytique par rapport aux rêves, c'est surtout le nettoyage intérieur qui est fait.
C'est génial, moi j'adore. Ça dit tellement de choses sur nous, et puis ça peut peut-être même anticiper ce qu'on va faire. C'est le cas pour l'histoire de Paul. Merci beaucoup de nous l'avoir conté depuis le Var. Vous aussi, qui nous écoutez ce soir, rejoignez-nous au 0810 055 056. Vous avez fait des rêves bizarres, et puis ça s'est répercuté dans votre vie. Ça vous a peut-être aidé, impacté, influencé. Confiez-vous, on est ensemble jusqu'à 22h.
Le soir sur France Bleu, on se dit tout, Ségolène Aluni.
Et on se dit tout sur vos rêves ce soir, rappelez-nous au 0810 055 056. Dans un instant, nous serons avec Michel et nous sommes à votre écoute avec notre grand témoin, Tristan Moir, spécialiste du langage du rêve ce soir. Et justement, alors on n'aide pas à décrypter les rêves, hein, c'est pas ça l'idée de l'émission ce soir. En fait, on a envie de savoir comment vous les analysez et il y a plusieurs façons de les analyser d'ailleurs. Vous proposer des formations. On va en parler dans un instant. Mais tout de suite, on va discuter avec Michel. Bonsoir Michel.
Bonsoir.
Alors Michel, vous avez perdu votre fille il y a 2 ans et on est désolé pour vous. Et vous avez rêvé d'elle récemment, c'est ça?
Non, en fait, j'ai perdu ma fille il y a 2 ans. Nous étions extrêmement fusionnels puisque je travaillais avec elle depuis 15 ans. On était vraiment, c'était mon double. Et quelques jours après son départ, j'ai rêvé qu'elle était petite. Vous savez, dans ce qu'on appelait les, comment ça s'appelait ? On appelait ça les, j'arrive pas à retrouver le mot. Ces espèces de petits trotteurs où on mettait les enfants quand ils commençaient à apprendre à marcher.
Un trotteur.
Un trotteur, voilà, vous aviez le mot.
Vous savez, les, j'arrive pas à trouver le mot.
Bon, c'est pas grave, Michel.
Siège qui roule et...
Un trotteur.
C'est un trotteur, Michel, oui.
Voilà, j'ai eu le sentiment qu'elle me disait « Tu vois, ne t'inquiète pas, j'apprends à marcher sans toi. Je continue, j'apprends à marcher sans toi parce qu'on faisait toutes les deux ensemble. Pour la moindre chose, elle me demandait conseil. C'était vraiment mon binôme, on était collés l'une à l'autre.
Et ouais, on a bien compris, Michel, que c'était fusionnel. Michel, est-ce que ce rêve vous a fait du bien? Qu'est-ce qu'il vous a apporté?
Alors, quelque part, ce rêve, pour moi, a été d'une évidence extrême immédiatement. J'ai dit, elle me dit qu'elle apprend à marcher sans moi. Mais bon, ça n'a rien enlevé à ma douleur. Mais par contre, ce qui me désole, c'est que depuis 2 ans, je dois sans doute rêver d'elle, mais je ne me souviens d'aucun de mes rêves. Voilà. Mais ce qui est surprenant, c'est que ça a été vraiment quelques jours après son départ et j'ai trouvé ça très symbolique. Voilà.
Merci beaucoup Michel pour ce témoignage très touchant et par contre on s'excuse pour la qualité de la liaison. Tristan Moir, du coup ça c'est quelque chose j'imagine de récurrent, de voir des proches qu'on a perdus qui reviennent dans nos rêves et on a l'impression qu'ils viennent nous délivrer des messages.
Oui, alors là dans le cas de Michel, le rêve, je pense qu'elle l'interprète très bien. C'est effectivement qu'elle peut continuer à marcher. Elle l'apprend d'ailleurs, puisque le trotteur, c'est pour apprendre à marcher. Il y a donc la satisfaction, la libération de savoir qu'elle aussi peut marcher toute seule. Puisque là, ça pourrait être une image d'elle. La plupart du temps, les personnages du rêve sont des projections de soi. Donc c'est une pièce dans laquelle on se met en scène dans différentes peaux. Là, il pourrait s'agir d'elle-même. Et dans les cas de décès, c'est vrai que les défunts reviennent souvent tant qu'on n'a pas fait le deuil. Alors, quelquefois, effectivement, ils nous délivrent des messages. Ce qui est important, c'est de le sens qu'on va donner à ce message. C'est-à-dire, est-ce que c'est notre inconscient qui nous parle ou est-ce qu'effectivement, il y a une continuité? Est-ce qu'il y a un besoin d'une perspective eschatologique, c'est-à-dire d'une après-vie? Et le rêve va être dans ce cas rassurant.
Et le rêve, quelque part, c'est un catalyseur, quelque chose qui nous aide à aller mieux et à libérer, à nous décharger de nos émotions trop grandes. Merci beaucoup Michel pour votre témoignage depuis le Sud-Ouest. Vous continuez de nous appeler au 0810 055 056 pour nous confier justement tous vos témoignages à base de vos rêves et de vos interprétations également. À tout de suite.
On se dit tout sur France Bleu, Ségolène Aluni.
Mais oui, on va parler plus sérieusement du rêve. C'est vrai qu'on rêve en moyenne 3 à 5 fois par nuit. Et donc, en moyenne, on fait plus de 100 000 rêves au cours de notre vie. France Bleu vous invite à venir raconter vos rêves ce soir. Les plus insolites, les plus dingues, ceux qui vous ont peut-être aidé à comprendre des choses sur vous, qui vous ont aidé à prendre des décisions, à débloquer des situations. Venez nous raconter votre expérience ce soir. Alors, je rappelle quand même qu'on ne fait pas d'interprétation de rêve ce soir. C'est pas du tout l'objectif de cette émission. Par contre, on vous attend pour nous raconter vos anecdotes, le rapport que vous entretenez avec vos rêves, vos cauchemars également. Appelez-nous, on est entre nous pour découvrir vos rêves les plus fous au sens propre du terme et pour vous écouter avec notre invité Tristan Moir, spécialiste du langage des rêves, à votre écoute.
Ce soir, on se dit tout sur France Bleu, 0810 055 056. Le soir, sur France Bleu, on se dit tout, Ségolène Aluni.
On se dit tout sur nos rêves, nos nuits qui sont peuplées d'images, de symboles qui s'expriment sous la forme de ces rêves. Est-ce que vous avez déjà tenté de les décoder? Ça peut permettre à certains de voir plus clair en soi. Et d'ailleurs, il y a certains qui utilisent leurs rêves pour mieux s'analyser. Est-ce que c'est votre cas? Est-ce que vous avez décidé de consulter un spécialiste des rêves après un cauchemar ou un rêve vraiment déroutant? Ça a donné quoi? Racontez-nous ce soir. On se dit tout jusqu'à 22h au 0810 055 056. Et celui qui est à votre écoute, c'est Tristan Moir. Tristan Moir qui nous fait la gentillesse d'être ici pendant 2 heures. Tristan Moir qui est onirologue, voilà, donc c'est-à-dire spécialiste du langage des rêves. Allez, on file à Clermont-Ferrand ce soir avec Gilles qui est au bout du fil. Bonsoir Gilles.
Bonsoir.
Alors Gilles, vous c'est un petit peu particulier puisque vous continuez de faire des cauchemars sur la fin de votre vie professionnelle, c'est ça?
Oui, tout à fait.
Alors expliquez-nous dans le détail.
Alors j'ai fini ma carrière professionnelle en longue maladie. Allô?
Oui, oui, on vous écoute.
Oui, bonsoir Gilles.
J'ai été hospitalisé pour harcèlement dans le travail et j'ai fini en maladie. Et depuis, les cauchemars reviennent.
Donc ça fait 8 ans.
Je ne comprends pas. Ouais. Et je me trouve dans ces cauchemars dans des situations imprévues, difficiles, ingérables. Un peu ce que j'ai vécu. Et alors longtemps, on me disait, il faut que tu fasses le pardon à ceux qui t'ont fait du mal.
Parce que qu'est-ce qui se passe dans ces cauchemars, Gilles, parmi les plus récents que vous ayez fait, qu'est-ce qui se passe concrètement?
Eh ben, on me met dans une situation, j'étais préparateur en pharmacie, on me met dans des situations pas possibles, on me donnait une ordonnance à préparer qui était totalement illisible, il fallait la préparer pour minuit, aller la livrer à 2h du matin, vous voyez, quelque chose d'incroyable. Et après, le matin, quand je me réveille, j'ai pour un petit moment à me dire, mais va-t'en. Tout ça, c'est du passé, c'est fini. Maintenant, c'est plus ça. Mais c'est pas facile.
Oui, parce que dans votre vie, donc à l'exception de la nuit et des rêves que vous faites, ça ne vous traumatise pas du coup cette fin de vie professionnelle.
Ça vous hante plus. J'ai une activité, je m'occupe beaucoup, je prends le positif, mais c'est la nuit.
La nuit, ça revient. Tristan Moir, c'est caractéristique. Ça, du coup, en fait, c'est peut-être quelque chose qui a été oblitéré par Gilles, justement, pour éviter de se faire du mal. Et ça revient par l'inconscient.
Alors, oblitéré, oui, ce serait le cas, puisqu'il y a, un schéma qui revient. Il y a une sorte de réflexe pavlovien d'addiction au harcèlement. Si vous continuez à faire ces cauchemars, c'est que le harcèlement que vous avez vécu a déjà été vécu auparavant. Donc là, on parlait tout à l'heure du profil de victime, et il est possible que vous soyez prédisposé à être harcelé, et que donc la vie va vous représenter toujours les mêmes schémas tant que vous ne les aurez pas résolus. Le rêve vient donc remettre en scène des éléments de conflit, des éléments de blocage, et d'échecs que vous avez certainement vécu dans votre enfance et que vous avez besoin d'éclaircir, de comprendre pour vous en sortir.
Vous avez essayé d'analyser ces cauchemars, Gilles ?
Oui, je les ai analysés. Je me suis dit que on a voulu m'imposer des choses et à côté de ça, j'ai des capacités. Et maintenant, je vis avec mes capacités, je fais ce que je ressens et je me sens beaucoup mieux.
D'accord, donc vous êtes dans un processus de décryptage de vos rêves qui vous fait du bien, mine de rien.
Qui me fait du bien. Et même, là, c'est des cauchemars, mais même depuis quelque temps, j'ai retrouvé, je ne sais pas si je peux dire retrouver, quelqu'un que j'avais aimé quand j'étais jeune, c'était un très bon collègue. Et puis la vie nous a séparés, il est mort très jeune. Et depuis 2 ans, j'ai retrouvé là où il repose. Et il m'est arrivé dans mes rêves de qu'il vienne me voir. Et là aussi, comme on disait tout à l'heure à l'antenne, c'est quelque chose de positif.
Oui, c'est comme une vie parallèle finalement, le rêve, Tristan.
Oui. Alors là, on évoquait tout à l'heure les personnages du rêve. Quand vous recontactez ce personnage, c'est une partie de vous. C'est donc une reconnexion avec une forme de vous. Vous avez aussi parlé d'incapacité. Le rêve va vous mettre dans un sentiment d'incapacité. Et il vous exhorte un petit peu à faire vos preuves. Tant que vous n'aurez pas dépassé ce schéma, tant qu'il y aura un blocage, le rêve va revenir. Ce sont des rêves récurrents, puisque là, c'est typique du rêve récurrent. Ouais. Le rêve revient dans la même forme tout le temps.
Et là, concrètement, qu'est-ce qu'il faudrait qu'il fasse, Gilles, pour ne plus faire du tout ces cauchemars ?
Comprendre d'où vient le blocage et souvent il faut remonter à la source. Donc la source, c'est pas forcément le moment vécu dans le conscient. Ce sont souvent des schémas d'enfance qui sont là à l'œuvre et donc des parents qui n'ont peut-être pas assez bien accompagné l'enfant, qui l'ont mis dans un sentiment d'échec, qui lui ont fait croire qu'il n'avait pas de capacité, comme tout à l'heure la femme qui parlait de sa mère avec la seringue.
Ouais.
Il y a beaucoup de schémas qui viennent de l'enfance qui vont nous...
Mais justement, pour y revenir, vous conseillez quoi plutôt à Gilles ? Parce que visiblement, il s'est déjà attelé à l'analyse de ses rêves. Est-ce qu'il faut qu'il consulte quelqu'un ou on peut le faire soi-même ?
C'est toujours mieux de se faire accompagner. Ouais. Parce que là, c'est un luxe apparemment pour certains, mais pas du tout. Parce que, évidemment, c'est cher de consulter. Mais on récupère sa mise 10 fois. Par l'aisance, par le bien-être, puisque logiquement, avec une thérapie. Donc les thérapies par le rêve, puisque moi, c'est ce que je propose, ça amène une disparition des symptômes, disparition du malaise, un recouvrement de légitimité et de plus de facilité à prendre sa place dans le monde.
Merci pour votre témoignage, Gilles, depuis Clermont-Ferrand. On passe au Pays Basque ce soir. Oui, on voyage un peu dans toute la France. Avec Christine. Bonsoir, Christine.
Oui, bonsoir.
Bonsoir, Christine.
Moi, j'ai une petite expérience, pas très longue à raconter. Mm-hmm. Mais disons qu'il y a une vingtaine d'années à peu près, j'ai rêvé que je n'arrivais pas à marcher. Et c'était une impression très désagréable parce que quand je me réveillais, je ne savais pas si j'avais vraiment, si ça m'était arrivé ou si j'avais rêvé. C'était très désagréable.
Ça vous poursuivait après le réveil.
Oui, et quelques temps après, quelques années après, je ne peux pas vous dire le temps, j'ai développé une maladie de Parkinson. Et maintenant, je suis dans cette situation où justement, j'ai parfois des moments où je ne peux pas marcher. Alors je pense que c'était un rêve prémonitoire que j'ai fait, mais ça fait 20 ans, mais j'ai gardé cette impression de très désagréable, surtout je ne savais pas si ça m'était vraiment arrivé ou si c'était un rêve. C'était très curieux comme impression.
Et pourquoi vous avez associé ça du coup à la maladie de Parkinson, Christine ?
Disons parce que maintenant j'ai justement des problèmes pour marcher, c'est-à-dire qu'on a des ça fait 16 ans que je suis malade, donc ça m'est arrivé avant, j'étais malade en 2001 et en 2006 j'ai commencé à avoir des blocages, c'est-à-dire je n'arrive plus à faire des pas. Je peux monter un escalier mais je ne peux pas faire des pas normaux, je peux pas faire des mouvements naturels, donc je suis dans cette situation du rêve où justement j'ai du mal à faire un pas et c'est très difficile. C'est pour ça que j'ai pensé
qu'il y avait un lien, que ça vous avait peut-être donné des signaux.
Ce qui me fait même interroger, c'est que c'est vraiment une impression que j'ai gardé le souvenir de ne pas savoir si c'était un rêve. C'est très, très curieux, et ça, je ne l'ai pas oublié.
Et vous l'aviez fait plusieurs fois, ce rêve ? Ou c'était une fois très fortement ?
Et toujours pareil, toujours en me disant, mais tu as rêvé ou ça t'est arrivé ? C'est curieux, mais voilà.
Ben merci pour ce témoignage précieux, Christine. C'est intéressant ce qu'elle nous dit, Christine. Les rêves, finalement, si on fait le rapprochement avec la maladie de Parkinson, est-ce que ça peut être des signaux d'alarme qui nous alertent sur notre état ou notre état futur ?
Alors oui, ça pourrait être des signaux. Il y a un dysfonctionnement. Et là, le jeu de mots est très simple. Elle n'arrive pas à marcher. Il y a donc quelque chose qui ne marche pas bien. Donc quelque chose ne fonctionne peut-être pas très bien dans son corps, mais ça peut être aussi une programmation. Puisque là, on est dans le psychosomatique. Est-ce que la maladie de Parkinson, c'est quelque chose qui est inévitable et qui ne vient pas du psychisme, ou est-ce que ça vient du psychisme ? Qu'on choisisse un camp ou l'autre, ça ne change rien, mais en tant que psy, moi je vais toujours considérer qu'il peut y avoir une origine psychologique à tout trouble. Et donc là, le rêve signale un dysfonctionnement, quelque chose qui ne va pas bien, c'est un rêve d'angoisse et d'impuissance. C'est comme le fait de ne pas pouvoir courir, le fait de ne pas pouvoir marcher, ouais. C'est que vraiment, l'esprit dit au corps, attention, il y a quelque chose qui ne marche pas. L'inconscient dit au conscient, attention, il y a quelque chose actuellement de dysfonctionnel qui fait qu'on ne marche pas bien.
Mais là, c'est quand même très violent, parce qu'au réveil, elle ne sait même plus distinguer la réalité du rêve. Et ça,
oui,
c'est...
tant l'émotion du rêve peut être vécue. Au moment du rêve, il y a une perte de sens critique. C'est-à-dire que la plupart du temps, sauf dans les cauchemars où on se réveille, quand c'est trop insoutenable, mais il y a quand même une perte de sens critique puisqu'on est capable de faire des choses ou de vivre des choses qu'on ne peut pas vivre dans la réalité. Donc il y a une déconnexion au niveau du cerveau du sens critique. Et là, dans le cas de Christine, c'est ça ?
Ouais, Christine.
Dans le cas de Christine, son corps ressent quelque chose tellement de façon forte qu'elle va penser que c'est vrai.
Ouais.
Mais alors, on pourrait dire aussi, il y a un conditionnement, elle va arriver à se programmer de cette manière, mais il y a forcément une cause antérieure. Donc là, il peut y avoir toujours dans la maladie des bénéfices secondaires. Donc pourquoi ? Pourquoi il y aurait quelque chose qui arrive à un moment donné ? Dans le négatif, on peut toujours trouver du positif.
Oui, c'est
comprendre
ça
qui
est plutôt pas mal. Merci beaucoup en tous les cas, Christine, pour ce témoignage depuis les Pays Basques. Vous aussi, vous qui nous écoutez, vous pouvez nous appeler ce soir pour nous faire part de vos rêves, les rêves qui vous ont peut-être conditionné pour le futur dans la réalité. On casse les frontières ce soir, on les brise pour revenir du rêve à la réalité. Est-ce que ça vous a influencé ? Est-ce que ça vous a aidé à comprendre des choses pour vous ? Ça vous a donné des clés, aidé à prendre des décisions ? On parle du rêve et on se dit tout à propos de ça avec notre grand témoin Tristan Moir que vous venez d'entendre, qui est spécialiste du langage du rêve. À tout de suite.
On se dit tout sur France Bleu, Ségolène Aluni. On est bien ensemble sur France Bleu. Le soir, sur France Bleu, on se dit tout, Ségolène Aluni.
Est-ce que les rêves nous font du bien ? Il semblerait que oui, après tout ce que nous venons de vous dire. Vos rêves servent peut-être à évacuer du stress, des peurs. Est-ce que vous vous êtes penché sur leur signification ? Ça vous a permis de comprendre des choses sur vous ? Ça vous a fait du bien ? Des rêves qui vous ont peut-être inspiré dans la vie, qui vous ont donné des clés ? Ou carrément des rêves qui se sont réalisés par la suite ? Venez nous en parler ce soir. Vous passez par France Bleu pour nous conter votre expérience au 0810 055 056 avec Tristan Moir, spécialiste du langage du rêve, qui est avec nous jusqu'à 22h. Et nous sommes à Nantes tout de suite avec Josia. Bonsoir Josia.
Oui, bonsoir.
Bonsoir Josia.
Bonsoir.
Alors racontez-nous votre rêve.
Bah oui, j'ai perdu un fils de 18 ans qui a été tué. C'était la faute du chauffeur, il a coupé la priorité, enfin il a tué elle. Puis voilà quoi, 18 ans. C'est dur pour une mère parce que, bon, j'avais perdu mon mari de 39 ans.
D'accord. Donc, ouais. Votre fils est décédé et vous avez rêvé de lui ?
J'ai rêvé de lui. C'est la seule unique fois que j'ai rêvé de lui.
Ouais.
Il était dans un grand champ de fleurs, mais alors des petites fleurs de toutes les couleurs. Il était habillé, lui qui avait le teint mat, il était habillé d'un beau costume en satin blanc. Et il me regardait, et il faisait un sourire, et puis il me disait, comme il était vivant, il me disait toujours, je veux pas te voir pleurer, maman, fais-moi un beau sourire. Et dans le rêve, il me dit ça aussi.
Ah oui, d'accord, donc il vous le disait dans la réalité, il vous l'a redit dans le rêve. Et qu'est-ce que ça vous a procuré, du coup, Josia, après ce rêve ? Est-ce que vous aviez un sentiment de soulagement, peut-être ?
Oh non.
Non. Ouais, j'imagine que c'est encore... C'est encore douloureux. On a eu des témoignages de cet acabit, Tristan Moir, sur ces personnes qui reviennent après le décès. Comment on l'analyse, ça ? Est-ce que ça peut être quelque chose
Bah là,
qui dans, relève un petit peu du...
Dans la conscience de Josiah, il y a quand même un message très très positif, puisque là, il vous répète quelque chose qu'il pouvait vous dire dans la réalité, mais il vous dit surtout, au travers du rêve ou au travers de votre inconscient, qu'il y a quelque chose qui perdure après. Qu'effectivement, c'est la chose la plus terrible qui puisse arriver à une mère, c'est de perdre son enfant. Mais là, il vous envoie un message de continuité. Mmh. Il vous envoie un message d'espoir, un message d'amour, et surtout, il est toujours vigilant. Il a un regard sur vous. Et là, dans la symbolique que vous utilisez les champs de fleurs. Les fleurs, symboliquement, représentent des portes, des endroits de passage. Mmh. Puisque, en allant plus loin, la fleur représente le sexe féminin.
Ah bon ?
Et donc, oui, d'accord. C'est par le sexe féminin que nous venons tous au monde.
Oui, ça, je savais. Je savais pas que la fleur, c'était le symbole du sexe féminin.
Voilà, donc okay. Quand on vous offre des fleurs, on vous offre des vagins. Pas compliqué.
Ah oui, mais oui, j'en parlerai à mon copain. Alors, d'accord.
Et donc la fleur représente une porte. Et là, il y a quelque chose de l'ordre du message de la porte. La vie n'est qu'un passage, la mort n'est qu'un passage. Mm. C'est textuellement ce que pourrait dire le rêve. Et l'inconscient ou le fils réellement vient réconforter la rêveuse en lui disant effectivement, c'est la pire des choses, c'est terrible, mais attention, c'est pas la peine de pleurer. On se retrouvera peut-être. Mm. Il y a quelque chose qui continue. Qui perdure.
Ouais, donc en fait, c'est notre cerveau qui nous envoie des signaux d'espoir pour.
Chacun choisit
d'interpréter.
C'est le cerveau ou c'est l'âme du défunt. Et donc chacun peut choisir effectivement ce qui lui semble le plus juste. Mmh. Et le plus juste, c'est ce qui nous fait du bien. C'est effectivement ce que l'on peut ressentir.
Parce que finalement, les rêves sont là pour nous faire du bien, au final.
La plupart du temps, et c'est vrai que le cauchemar apparemment n'est pas là pour nous faire du bien, mais il nous ramène à des choses que nous devons surmonter pour aller mieux, pour comprendre pourquoi nous sommes bloqués. Et donc là, c'est un rêve vraiment d'ouverture, un rêve qui est magnifique, qui peut d'ailleurs faire songer à une scène du film de Kurosawa qui s'appelle Dreams,
ouais.
Où on voit un enfant au milieu d'un champ de fleurs avec cette notion de passage qui est absolument incroyable.
Ouais, c'est très cinématographique en plus. Merci beaucoup Josiah pour ce témoignage touchant depuis Nantes. On file dans l'Hérault tout de suite avec Irène. Bonsoir Irène.
Oui, bonsoir. Voilà.
Vous avez fait un rêve éveillé.
Oui, un rêve éveillé parce que je l'ai réfléchi comme ça. Hein. En fait,
qu'est-ce que c'est un rêve ? Alors attendez, qu'est-ce que vous appelez un rêve éveillé du coup, Irène ?
Parce qu'en fait, je me suis retrouvée dans une autre réalité. Je travaille beaucoup, je suis infirmière libérale. Hein, et un soir, bon, j'arrivais vers 9h du soir, j'étais un petit peu fatiguée, mais sans plus, j'avais pas envie de dormir. Hein, mais je me suis dit que ça serait bien de m'allonger, donc je m'allonge.
Alors attendez, excusez-moi, vous voulez dire que vous avez fait un rêve en état d'éveil et les images se sont imposées à vous, ou c'est voilà. Vous qui avez orienté le rêve ?
Non, les images se sont imposées à moi. Un voilà. Peu comme Alice au Pays des Merveilles. Bon, Alice dormait okay. Apparemment, mais...
Oui, c'est un rêve lucide sans induction.
Voilà, lucide.
C'est-à-dire que ça peut nous arriver, nous pouvons faire des rêves, on est éveillé, tout d'un coup des images s'imposent à nous, et si nous ne cherchons pas à les contrôler, si nous laissons le film se dérouler, on assiste à un véritable rêve. Et l'avantage, c'est que là, on s'en souvient parfaitement, puisqu'on est réveillé en même temps.
Ah, d'accord. Donc c'était ce cas de figure-là, Irène. Et qu'est-ce qui s'est passé ?
Alors en fait, je me suis allongée sur le lit, j'ai juste fermé les yeux, et devant moi se trouvait une pièce, hein. Toute blanche, toute claire, et il y avait un seuil. Alors je me suis proposé de le franchir pour voir, par curiosité. Donc je l'ai franchi, je me suis retrouvée dans un univers merveilleux, des sortes de flocons multicolores me tombaient mais délicatement sous la tête et rebondissaient, et je les sentais. Et j'ai laissé cette sensation m'envahir quelque temps, je ne peux pas dire combien de temps, parce que le temps n'a pas de valeur réelle dans les rêves.
Oui, le temps est élastique dans les rêves.
Voilà, c'est ça. Et puis, bon, ça a duré le temps que j'ai voulu que ça dure. Puis après, bon, je me suis dit, ben maintenant, je peux sortir de là. Je vais voir si je peux en sortir. J'ai fait quelques pas en arrière. Je suis sortie de cette pièce et j'ai ouvert les yeux et voilà, j'étais...
C'est dingue, vous avez fait un voyage conscient et volontaire, quelque part.
Voilà, volontaire et agréable. Et c'était formidable.
Et vous avez analysé ça comment, Irène ? Ça veut dire quoi pour vous ?
Je n'ai pas pu l'analyser, j'ai su que ça existait, que des personnes faisaient des rêves de cette nature, mais moi-même, je n'avais jamais vécu et je ne sais pas pourquoi j'ai fait ce rêve. Je n'ai pas trouvé la signification jusqu'à présent.
Hein. Voilà. Et ça vous est arrivé par la suite de refaire
non.
ce genre de rêve
non.
éveillé?
Non, du tout. Ça a été l'unique fois, mais c'était assez spécial quand même. Hein. Surtout de fait de ressentir physiquement les flocons énormes et multicolores qui me tombaient sur la tête, enfin qui rebondissaient en fait, c'était magnifique hein, cette ouais. sensation, je me suis sentie très bien.
Voilà. Est-ce qu'on peut dire que là, Irène a contrôlé son rêve, même si elle n'en connaît pas la signification?
Alors
l'a orienté.
Apparemment, il y a une induction quand Irène veut passer la porte volontairement.
Qu'est-ce que vous appelez induction du coup, on doit
C'est-à-dire qu'il y a une influence du conscient, mm-hmm. je vais passer. Et donc ouais. là, c'est une volonté consciente, mais sinon apparemment, tout le reste n'est pas programmé, ce n'est pas une pensée créatrice, c'est simplement l'accueil dans une autre dimension. Sur voilà. le plan du niveau du rêve, c'est une augmentation de votre niveau de conscience. C'est-à-dire que quand vous franchissez cette porte volontairement, que vous décidez de la passer, c'est que tout d'un coup, vous augmentez votre niveau de conscience. Et le rêve va participer d'une grande partie à ça, c'est augmenter notre champ de conscience pour que nous soyons de plus en plus conscients de ce que nous sommes, de ce que nous faisons, et ne pas être submergés par des conditionnements, par des choses basiques, par du primitif, par des pulsions, mais augmenter notre champ de conscience pour pouvoir mieux évoluer. Et quand vous choisissez de franchir cette porte, c'est vraiment ça, j'entre dans une autre dimension qui est celle de la cristallisation. Sur le plan symbolique, le cristal, c'est chaque individu. Nous sommes tous des cristaux, c'est-à-dire que nous sommes tous à 99% faits de la même manière.
Mm-hmm.
Mais quand nous atteignons notre point de cristallisation, chaque cristal, quand il neige, il y a des milliards de cristaux qui vont se produire, ils sont tous à 99% faits pareil, et ils ont tous un point d'individuation. Ils ont tous un point de ce que j'appelle le clinamen, c'est-à-dire qu'ils ont une petite divergence. Et le rêve nous permet de nous connecter justement avec ce point de cristallisation. Et c'est ce que vous faites quand vous entrez dans cette dimension. Vous vous connectez avec une dimension beaucoup plus large de vous-même, mais qui est au-delà de l'amour. Je dirais, puisque là, comme vous choisissez des cristaux, des flocons, c'est plus quelque chose de froid que quelque chose de chaud. Et donc, vous ne cherchez pas des compensations affectives, vous cherchez quelque chose qui fasse que vous soyez encore plus lucide.
D'accord, donc là on atteint un niveau de lucidité et de conscience quand oui. on fait ce genre de rêve, bah, c'est assez édifiant. Irène, je crois que vous aviez un autre rêve à nous raconter, prémonitoire, c'est ce que oui. vous avez supposé?
Je ne sais plus il y a combien de temps à peu près, mais j'étais allée amener ma fille qui partait à un voyage scolaire, il fallait que je sois avant 5h à Montpellier. Elle prenait le bus avec tous ses camarades, et donc je l'ai déposée, mais bon, comme je travaille... souvent et ça me fait des bonnes journées, donc quand je suis rentrée j'étais fatiguée, là ce matin-là je ne travaille pas, donc je suis allée me reposer et j'ai eu un sommeil très très profond, très lourd, et puis d'un coup je me suis retrouvée dans une espèce de pièce très oppressante avec une voilà, c'était très oppressant et il y avait un bruit assourdissant, de plus en plus assourdissant, et une espèce de turbine qui se rapprochait de moi. Et j'ai eu la sensation, puis j'entendais des cris, et je savais que j'allais mourir. Et je disais, non, je ne veux pas mourir. Et cette turbine s'est rapprochée, et au moment où elle allait me toucher, et que j'allais mourir, en fait, ça s'est dissipé. Et là, je me suis réveillée, j'étais ouais. vraiment mal, angoissée. Et puis, quelques heures après, j'ai su qu'il y avait ce pilote allemand qui avait crashé son avion contre la montagne. Et je l'ai associé avec ce que j'avais vécu, quoi.
C'était voilà. le crash de l'avion à Digne, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Et, donc, d'accord. Et ça s'était passé juste avant, votre rêve?
C'était sur le matin, là, vers 5-6 heures. Je rentrais, ça devait être 6 heures du matin. Donc après, entre 6 heures et je crois que je me suis levée tard en plus. Parce que du coup, ça m'avait fatiguée de faire un rêve pareil. J'étais pas bien, je l'avais dit à ma mère. Je dis, mais j'ai fait un rêve vraiment étonnant. Et voilà, donc je sais pas, je pense que ça se passait soit un petit peu avant, enfin le rêve s'est produit avant que ça ne se passe, ou en même temps, je ne sais pas, je peux pas vous dire.
Et vous en concluez quoi du coup, Irène?
Comment?
Vous en concluez quoi? Ça veut dire quoi pour vous?
J'ai fait un rêve prémonitoire, voilà.
Tout simplement.
J'ai perçu...
Tristan Moir n'a pas l'air tout à fait d'accord. Comment vous interprétez ça?
Alors d'abord, Irène, vous avez fait chronologiquement ce rêve avant le rêve de la porte ou après?
Avant.
D'accord, bon ça va, ça s'enchaîne bien. il est possible que vous ayez eu accès à quelque chose de l'ordre de l'inconscient qui émane et qui vous parle. Mais là, parce que là, effectivement, on peut mettre ces images en corrélation avec l'événement, mais là, c'est plus un sentiment d'oppression que vous vivez. Il s'agit peut-être de l'illustration de votre bruit de fond mental. La turbine peut représenter le bruit de fond mental que vous avez qui risque de vous écraser, qui risque de vous submerger si vous n'arrêtez pas de ratiociner. C'est-à-dire de psychoter, d'avoir des idées qui tournent en rond. Et donc là, le bruit de fond mental, vous pouvez l'interrompre. Le rêve arrive comme ça, d'ailleurs, pour vous faire peur. Et quand vous faites le rêve de la porte ensuite, c'est qu'effectivement, vous allez accéder à une autre dimension.
Oui, mais on peut comprendre du coup que quand on fait ce rêve-là, qu'on n'a pas l'habitude de faire, et que le jour même, il y a un crash d'avion, on se dit, mais c'est dingue.
Oui, ça a mais un qu'est-ce lien... que ça apporte à la personne? Rien.
Non, rien. Juste le fait de se dire qu'on a peut-être des pouvoirs.
Alors là, la c'est prémonition. Côté, voilà, ouais. C'est ça le côté magique. Attention, parce qu'on va toujours avoir tendance à se réfugier dans le superstitieux et le magique, parce qu'on a besoin d'être émerveillé, mais on peut se raconter des histoires. Là, vraiment, c'est un bruit de fond mental, quelque chose qui risque de vous écraser si vous ne le faites pas taire.
D'accord. Bon, ben voilà, on aura la signification de ça. Merci beaucoup, Irène, de nous avoir appelé depuis l'Hérault. Avant de plonger dans les bras de Morphée ce soir, on parle ensemble de ces rêves que l'on fait, qui nous disent des choses. C'est souvent notre inconscient qui parle, mais encore faut-il réussir à l'analyser. Et on vous demande ce soir si vous avez déjà réussi à interpréter vos rêves. Est-ce que vous avez creusé? Ça vous a aidé à comprendre une situation, à comprendre des choses sur votre personnalité, votre comportement? Vous nous racontez votre expérience. Nous sommes à votre écoute ce soir sur France Bleu avec Tristan Moire, spécialiste du langage des rêves. Et ce soir, on se raconte nos rêves sur France Bleu. On se dit tout sur ces rêves que vous avez peut-être déjà analysés. Vous prenez ça très au sérieux ou vous trouvez ça drôle peut-être? Eh bien, racontez-nous 0810 055 056. On parle des rêves avec Tristan Moire qui est onirologue et à votre écoute surtout ce soir. Et nous sommes avec Laura depuis l'Auvergne. Bonsoir Laura.
Bonsoir Laura.
Oui, bonsoir.
Alors Laura, vous rêvez chaque année à la même époque de la même chose.
Oui.
Et vous rêvez qu'en fait, c'est l'ancien endroit où vous travaillez qui est en train de brûler. Racontez-nous.
Alors en fait, c'est pas l'endroit où je travaillais, c'est le centre équestre où je montais avant, où j'ai commencé à apprendre à cheval, tout ça. Et un mois avant que l'incendie se produise, j'avais rêvé qu'il y avait eu ce fameux incendie. Et j'avais rêvé que les chevaux avaient été sauvés.
D'accord.
Et malheureusement, la nuit où l'incendie s'est déclaré, les chevaux n'ont pas pu être sauvés.
Et donc en fait, là, ce que vous nous dites, c'est que vous pensez avoir fait un rêve prémonitoire, Laura?
On peut dire à moitié prémonitoire, puisque j'ai rêvé du fameux bâtiment qui a brûlé. Mais pour le côté sur les chevaux, c'était pas prémonitoire, non.
Et vous avez analysé, Laura, ce rêve?
Bah, je suis en train de me rendre compte maintenant que si j'en rêve encore tous les ans, c'est que j'ai pas réussi à accepter ce qui s'est passé.
Mais je veux dire, vous avez consulté peut-être un dictionnaire des rêves ou quelqu'un spécialiste là-dedans pour savoir. Oui.
J'ai même consulté deux personnes. Après, je me souviens plus leur nom parce que ça date.
Oui, non, mais peu importe. Mais c'est pour savoir justement comment vous avez travaillé là-dessus avec ces spécialistes.
Bah, ils m'ont dit que ce qu'il me faudrait pour pouvoir accepter le fait que ça ait brûlé, c'est qu'il faudrait que je retourne à ce centre équestre. Mais j'arrive pas à faire le pas pour y retourner encore.
D'accord. Tristan, vous en pensez quoi, du coup, de ce cas de figure?
Alors, si le rêve, le cauchemar se répète, effectivement, c'est un rêve de revivifiance. Donc, ce qui se produit chaque fois qu'il y a un trauma, tant que vous n'avez pas fait remonter toutes les informations au niveau vraiment du conscient, de comprendre comment ça s'est passé, vous avez besoin, le rêve va le représenter. Et donc, vous allez faire des cauchemars. Il est donc important d'aller travailler dessus encore peut-être, de parler pour savoir ce que vous ne verriez pas encore. Parce que là, il y a un traumatisme, mais il viendrait d'où pour... enfin, hormis la mort des chevaux, qu'est-ce qui serait le plus traumatisant pour vous?
Finalement, ce qui m'a le plus traumatisé, c'est que mes tout débuts en équitation, c'était dans le centre équestre.
D'accord, donc c'est attaché à votre enfance. Ok. Alors, juste un détail. Comment il a brûlé ce centre équestre?
Alors, je m'excuse de l'expression, c'est vrai que je dis ça à tout le monde. C'est un enfoiré qui a mis le feu.
Ok. Mais est-ce que c'était prévisible?
Alors ça, c'est pas facile à dire. Je ne sais pas.
Parce que là, si vous faites ce rêve, c'est que déjà, peut-être, vous avez perçu inconsciemment qu'il y avait un comportement pathologique chez cet individu.
Ah, c'est possible. Après, je sais que... Alors, j'étais à moitié contente parce que j'ai appris l'autre jour qu'ils l'ont retrouvé, celui qui a mis le feu, là. Et apparemment, dans la même nuit, il aurait essayé de brûler un autre bâtiment. Il a été arrêté à temps. Mmh. Et après, il a brûlé le centre équestre et ils l'ont retrouvé fin 2016. Et il a pris 5 ans de prison avec sursis.
D'accord. Bon, on va laisser de côté l'anecdote. Du coup, Laura, est-ce que ces rêves ont quand même évolué ou c'est vraiment systématique? C'est le même rêve que vous faites chaque année?
C'est le même rêve à chaque fois, malheureusement.
Donc ça évolue pas. Et ça fait combien de temps? Ça fait 7 ans?
7 ans, oui.
C'est fou,
2010.
C'est fou, ça, quand même, Tristan. On peut refaire le même rêve chaque année, à la même époque.
Tant que le traumatisme n'est pas remis à niveau du conscient, il se représentera. Mm. Puisque là, ce qui se passe dans le traumatisme, c'est qu'une information va arriver dans les couches profondes du cerveau sans avoir suivi un cursus normal de progression neurologique. L'information est trop violente. Donc, il faut que l'information refasse le trajet inverse au niveau du cerveau.
D'accord.
Pour que les chemins puissent se faire et qu'il y ait un apaisement, une pacification au niveau de la charge émotionnelle.
Donc, en fait, le rêve permet de se décharger de cette émotion et...
La remet en scène pour que l'individu comprenne pourquoi, effectivement, il est encore traumatisé.
Donc là, en l'occurrence, pour Laura, ce sont des signaux pour l'alerter et faire en sorte qu'elle comprenne.
Et voilà,
tant qu'elle n'aura pas résolu cette histoire-là.
Voilà, il faudrait que Laura note son rêve et qu'elle travaille dessus pour voir quels sont les détails qui lui échappent. Parce que là, effectivement, s'il y avait un aspect prévisionnel avec le rêve fait précédemment et que les chevaux meurent, là, effectivement, il y a...
Ouais.
Ça va pas. Et donc, c'est pas magique. La personne ne peut pas effectivement contrôler tout. Mm. Et ça peut être ça qui est désarmant. Mais sinon, le cheval représente la plénitude du corps. Et il est possible que chez Laura, il y ait quelque chose au niveau du corps qui soit bloqué.
Ouais. Ah oui, donc il y aurait peut-être matière à creuser. Merci beaucoup Laura pour votre témoignage depuis l'Auvergne. Je voulais juste terminer avec un témoignage qui nous a été laissé par message de Christine Ducanet dans les Alpes-Maritimes. Elle nous raconte qu'elle a réussi à débloquer la situation d'un jeu vidéo grâce à ses rêves. Je vais vous détailler, en fait c'était dans un jeu vidéo où son fils était resté bloqué, toujours au même niveau, et ce pendant des jours et des jours. Alors ils s'y sont mis à deux pour essayer de faire avancer le jeu, mais impossible de trouver la solution dans la réalité. Donc, alors ça l'a tellement hanté, cette maman, Christine, qu'elle s'est mise à en rêver, et elle a rêvé qu'elle trouvait la solution, donc elle s'en est souvenue au réveil, du coup, et elle s'est précipitée le matin dans la chambre de son fils en le priant d'allumer son ordinateur et le jeu, et là, bim, elle teste la manœuvre dont elle avait rêvé quelques heures auparavant, et c'était la bonne, et le rêve lui a permis en fait de trouver la solution, et son fils a pu passer à l'étape supérieure du jeu. C'est fou ça quand même, c'est anecdotique, mais ça
c'est
prouve
fréquent.
Que... C'est vrai ?
C'est fréquent.
Ah ouais ?
Tout à l'heure, je faisais la comparaison avec un super ordinateur. Notre cerveau est un super ordinateur. Pendant le temps du sommeil paradoxal, nous utilisons presque la totalité de nos fonctionnalités. Mmh. Dans le temps d'éveil, on utilise 10 à 20% de nos potentiels. Donc là, le cerveau est capable de trouver une solution, surtout que ça devient quelque chose d'obsédant.
Mmh.
Et donc, il y a des mathématiciens, il y a des auteurs, il y a des cinéastes qui trouvent toute leur inspiration dans le rêve. Mais donc, des clés mathématiques, on peut les trouver aussi dans le rêve.
Donc, on peut résoudre des jeux vidéo.
Oui.
Là,
on peut
c'est
tout
assez
résoudre pendant le temps du rêve.
Le rêve peut nous faire faire des choses folles. On se dit tout sur les rêves ce soir avec Tristan Moir, qui est avec nous pour quelques minutes encore, psychanalyste, onirologue et onirothérapeute aussi, c'est ce qu'on dit.
Oui.
Voilà, spécialiste du langage des rêves sur France Bleu. Bientôt 22h. Bienvenue à tous.
Le soir, sur France Bleu, on se dit tout. Ségolène Aluny.
Et on se dit tout, c'est déjà terminé. Merci à tous d'avoir pris la parole. Merci à tous ceux qu'on n'aura pas pu accueillir ce soir puisque le temps nous est compté. Et merci à notre grand témoin, Tristan Moir. Merci d'avoir été avec nous, Tristan.
Merci, Ségolène.
On se retrouvera pour d'autres émissions autour du rêve. J'en profite pour préciser que vous interprétez les rêves puisque vous êtes spécialiste du langage des rêves, que vous donnez des formations aussi pour décoder
oui,
ces
tout
rêves.
Tout à fait, pour thérapeutes et pour étudiants.
D'accord, pour les étudiants aussi. Donc
j'enseigne le langage du rêve.
Ah, ça, c'est intéressant. Et pour cela, pour en savoir plus, rendez-vous sur votre site, tout simple, tristan-moir.fr, Moir, M-O-I-R.
Oui.
Et on y trouve aussi un dictionnaire des rêves en ligne et on le retrouve aussi sur papier. papier puisque vous avez sorti le nouveau dictionnaire des rêves aux éditions L'Archipel il y a un an et demi de cela.
Voilà, c'est ça.
Voilà,
tout à fait.
C'est tout bon. Et vous avez une page Facebook aussi.
Et j'ai une page Facebook.
Voilà, oui. Pour tout vous retrouver. Merci beaucoup Tristan Moir encore une fois et belle soirée.
Merci beaucoup Ségolène et bonsoir à tous.
Bonsoir à tous et lundi vous retrouverez Vanessa Lambert à partir de 20h. On se dit tout sur la relation mère-fille. Quelle relation vous avez avec votre mère ou avec votre fille d'ailleurs? Est-ce que vous êtes proche, rivale? Si vous avez une relation qui ressemblerait à celle de copine ou de sœur, eh bien venez nous en parler. Vanessa sera avec la psychologue Patricia Delahaye ce lundi entre 20h et 22h.